3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro. Depuis sa sortie il y a plus de 50 ans, l'inspecteur Harry Callahan a souvent été accusé d'être un personnage macho, violent, fasciste et même raciste. Mais, en bout de ligne, le policier de San Francisco, dont le matricule est 2211, est simplement un fonctionnaire violent, froid et cynique, aux méthodes expéditives, qui n'a comme objectif que de protéger la population et de faire respecter les droits des victimes contre ces criminels de la rue qu'il éliminera grâce à son revolver Magnum 44. Callahan mène sa propre guerre au sein du système judiciaire américain qu'il juge imparfait et inefficace. Ce mépris réciproque envers sa hiérarchie et plus généralement l'ordre établi est plus que conflictuel. Régulièrement, on le menace de le suspendre et même de le renvoyer. Tandis que Callahan a peu de respect pour la plupart des règles officielles de la police, les considérant comme de la bureaucratie inutile, il adhère tout de même à son propre code d'éthique, il est complètement incorruptible et s'attarde à protéger et venger les victimes de crimes violents. Quelle que soit la personne en face de lui, simple citoyen, collègue, supérieur ou criminel, Harry le Charognard, comme il est surnommé par ses coéquipiers, conserve toujours son franc-parler à la vulgarité si caractéristique. Pour ce personnage particulièrement avare de ses mots, le ton direct qu'il emploie lui permet de clore les conversations avant que celles-ci n'aient commencé. Personnage inspiré d'un véritable inspecteur de la police de San Francisco, qui fut à l'époque connu du grand public par l'affaire dont il s'occupe, soit celle du tueur du Zodiac, il est tout de même surprenant d'apprendre que Clint Eastwood était le dernier acteur en ligne à qui l'on pensa pour interpréter le dit personnage. Pourtant, il est impossible aujourd'hui de voir quelqu'un d'autre à sa place. Apparaissant dans plus de 5 longs-métrages, ce personnage mythique deviendra le modèle d'une nouvelle sorte de drame policier du monde cinématographique, soit celui du justicier sommaire, souvent proche de la limite et repoussant les frontières professionnelles et morales pour appliquer sa propre vision de la justice. Harry Callahan fut élu le 17e plus grand héros du cinéma dans la liste des 100 ans, 100 héros et méchants de l'American Film Institute et 41e meilleur film dans la liste des 100 meilleurs films de suspense de cette même organisation. Dirty Harry sera également présent dans deux autres catégories de l'AFI, soit celle des 100 meilleures répliques du cinéma et celle des 100 meilleures trames sonores de films. En 2012, le film Dirty Harry sera sélectionné pour la préservation par le Library of Congress pour son importance culturelle et historique du cinéma nord-américain. Ce sera donc le sujet de notre programme double aujourd'hui, où je ferai tout d'abord un survol du film Tightrope, qui devait faire à l'origine partie de la franchise de Dirty Harry avant de devenir un film policier totalement indépendant de la franchise, et bien sûr du film Dirty Harry, un des films policiers les plus influents de sa génération. Donc, préparez votre Magnum 44 et assurez-vous que votre partenaire ne s'est pas fait tirer dessus, afin de venir célébrer ce 50e anniversaire de l'un des policiers les plus controversés de l'histoire du cinéma américain, j'ai nommé Harry Callahan.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you.
We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted.
See your next movie completely free. And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
I found one of the bodies near here. They're getting closer.
Closer to what?
Daddy.
To me.
All I'm asking is to be involved in the investigation, all right? Maybe we could put up some warning posters.
But say what? Some nuts going around the city strangling women?
Yeah, why not?
Because we're not sure it's true. All it would do is terrify women all over this city.
Well, maybe it should. Do you investigate many sexual crimes?
Why?
I was wondering if they've had any effect on you.
Detective Block, are the murders connected?
Yes, we believe that the murders are committed by the same killer. The killer is a Caucasian, blood type O, about in his mid-40s.
Any suspects?
120,000 of them.
Anything you'd like me to tell the mayor?
Yeah, he's one of them.
A cop on the edge. Clint Eastwood. Tightrope.
Tightrope, ou La corde raide, est un drame policier qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 17 août 1984. Ce film américain d'une durée de 115 minutes a été réalisé avec un petit budget dont je n'ai malheureusement pas le montant, mais a quand même amassé plus de 48 millions au niveau du box-office nord-américain. Au niveau du poste de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène Richard Tuggle, dont il s'agit ici du tout premier film en carrière et qui réalisera le film Out of Bounds 2 ans plus tard. Il sera supervisé par le producteur américain Clint Eastwood, qui avait produit des films tels Firefox, Any Which Way You Can et Pale Rider, ainsi que le producteur américain Fritz Mains, qui lui avait travaillé sur Sudden Impact, Heartbreak Ridge et City Heat. Richard Tuggle écrira également le scénario, ce scénariste américain qui avait travaillé sur le film de Clint Eastwood intitulé Escape from Alcatraz. Au niveau de la distribution, on y retrouve bien sûr l'acteur Clint Eastwood, l'actrice canadienne Geneviève Bugeaud, Dan Hedaya, Alison Eastwood, la fille de Clint Eastwood, Jenny Beck, Marco St. John, Rod Masterson, Jamie Rose et Janet McLachlan. Un détective de la police de la Nouvelle-Orléans est appelé à enquêter sur une série de meurtres de femmes apparemment commis par le même homme. Élevant seul ses deux filles, un détective se découvre certaines affinités perverses avec le meurtrier, ce qui complique l'affaire, spécialement lorsque la directrice du Centre de prévention contre le viol se mêle de l'enquête et que le mystérieux assassin semble nourrir une rancune contre lui. Cherchant à capituler sur les films noirs des années 1940, Tightrope fut écrit par le scénariste Richard Tuggle, qui avait déjà travaillé avec l'acteur, réalisateur et producteur Clint Eastwood en 1979 sur le film Escape from Alcatraz. S'inspirant d'articles de journaux qui traitaient d'un véritable violeur toujours en liberté dans la ville de San Francisco depuis plus de 10 années et connu sous le nom du Bay Area Rapist, Tuggle pensera alors au réalisateur-producteur Don Siegel pour produire ledit film en espérant que ce dernier lui donnera la possibilité de faire ses premiers pas en tant que réalisateur sur cette production. Malheureusement, Siegel déclinera alors la proposition. De son côté, Eastwood adore le scénario et accepta immédiatement le rôle et donnera alors à Tuggle le poste tant convoité de metteur en scène. À première vue, le film semblait mettre en vedette le personnage de Harry Callahan, qui était apparu dans les films Dirty Harry en 1971, Magnum Force en 1973, The Enforcer en 1976 et finalement Sudden Impact en 1983. Mais Tuggle confirmera que Eastwood n'eut jamais l'intention de faire de Tightrope une autre suite à la populaire franchise, demandant même à ce que l'histoire, qui se situe à l'origine à San Francisco, soit transportée dans les sombres quartiers de la Nouvelle-Orléans. En effet, à la grande surprise du scénariste, Eastwood voulait interpréter un autre style de policier, un homme confronté avec la dure réalité d'élever seul ses deux filles, alors que ces derniers semblaient tranquillement sombrer dans le monde pervers d'une sexualité qui lui était permise d'explorer à cause de son enquête, faisant du personnage qu'il interprétait un être beaucoup plus complexe que celui de Callahan, celui-ci étant tout simplement confronté à sa propre moralité. Au niveau de la distribution, Tuggle avait dans l'espoir d'embaucher Jane Fonda dans le rôle de Beryl Thibodeau. Lorsque cette dernière refusa, Eastwood approchera alors l'actrice Susan Sarandon, qui refusa également le rôle parce qu'elle trouvait que le lien entre la violence et le sexe était beaucoup trop explicite et que la femme était maltraitée en général dans le long métrage, demandant même à Eastwood si ce dernier n'avait pas peur pour sa carrière et le fait qu'il risquait d'être mal perçu sur sa façon de voir la femme en général. Finalement, ce sera l'actrice originaire de Montréal, Geneviève Bugeaud, qui acceptera le rôle en demandant à Eastwood s'il était possible de faire en sorte que son personnage et le sien n'aient aucune scène d'amour sur l'écran, croyant que cela serait inapproprié à l'histoire, ce à quoi acquiesça sans difficulté l'acteur. Clint Eastwood était, à cette période-là, en couple avec l'actrice Sondra Locke depuis 1975 et avait l'habitude de partager l'écran avec cette dernière dans chacune de ses productions, incluant Sudden Impact en 1983. Sa relation avec Locke commençant à battre de l'aile, les hauts dirigeants de la Warner Brothers lui conseillèrent de cesser de mettre l'actrice dans ses films car ils croyaient fortement que le public en général commençait à se lasser de cette relation sur le grand écran. Eastwood oubliera Locke sur le plateau de tournage car il est de notoriété publique que l'acteur eut plusieurs liaisons avec des actrices du film, à commencer par Jamie Rose, l'actrice qui interprétait la toute première victime. La fille de Clint Eastwood, Alison Eastwood, apparaîtra dans ce film comme l'une des deux filles de son personnage. Ce rôle est crédité comme étant le premier rôle de la carrière de la jeune actrice, ce qui n'est pas totalement vrai puisque cette dernière a eu un caméo dans le film de 1980 « Bronco Billy ». En 1989, Alison Eastwood, alors âgée de 17 ans, fut harcelée par un amateur du nom de Mick Johnson qui provenait de la Nouvelle-Orléans, l'homme étant devenu obsédé par la jeune femme après l'avoir vue dans ce film.
Armé d'un budget très restreint, le réalisateur Richard Tuggle débutera le tournage du film en Nouvelle-Orléans le 17 octobre 1983, mais ne complétera jamais ce dernier, Eastwood prenant sa place derrière la caméra parce qu'il trouvait que le metteur en scène était beaucoup trop lent et incertain durant la production. Le tournage sera alors complété le 3 décembre de cette même année, la production n'ayant pris que 46 des 54 jours prévus pour amasser toutes les images nécessaires au montage du long métrage. La majorité des scènes furent tournées dans le quartier français de la dite ville, qui était à cette époque en pleine rénovation pour l'événement du World Fair qui devait avoir lieu en 1984. Durant le tournage, la situation entre Eastwood et Tuggle sera très tendue. Tuggle avait la vilaine manie de ne pas porter de sous-vêtements et un jour, sur le plateau de tournage, Eastwood, remarquant que les parties privées du réalisateur pendaient hors de ses boxeurs, ordonna à l'homme de retourner dans sa caravane et de se mettre des sous-vêtements, et ce, devant toute l'équipe. Travaillant avec son équipe habituelle, soit le directeur de la photographie Bruce Surtees et le monteur Joel Cox, Eastwood fera également de nouveau confiance au producteur Fritz Maines, qui voulait montrer deux aspects de la ville de la Nouvelle-Orléans, soit le charme historique de la ville et la qualité du jazz qu'on y trouve. Cela amènera Eastwood à engager le saxophoniste américain Lenny Niehaus pour la réalisation de la musique du film. Niehaus avait orchestré la musique du compositeur Jerry Fielding dans le film Escape from Alcatraz en 1979. Ce long métrage marquera le début d'une association avec Eastwood, le musicien s'occupant en effet de la musique de 13 autres films de l'acteur. Niehaus allait malheureusement décéder le 28 mai 2020 des suites de troubles cardiaques à l'âge vénérable de 90 ans. Tourner dans les rues de la Nouvelle-Orléans fut très difficile pour l'équipe de production, principalement parce que ces rues étaient très étroites, causant des problèmes pour la mobilisation des camions de production. Le film aura sa première mondiale le 16 août 1984 durant le Festival du film du monde de Montréal, avant de sortir le lendemain sur plus de 1535 écrans à travers le continent nord-américain. Tightrope amassa plus de 9,1 millions de dollars après son premier week-end et plus de 20,9 millions de dollars après seulement 10 jours de projection, ce qui sera un nouveau record pour une production de la Malpasso, la compagnie de production de films de Clint Eastwood. À sa sortie, les critiques fustigèrent le caractère sexuel trop explicite de Tightrope et le fait qu'Eastwood ait fait jouer sa fille, alors âgée de 12 ans, dans une telle histoire, mais devant le succès commercial, Tightrope étant le quatrième film le plus rentable de 1984, certains chroniqueurs reviseront leur jugement et publieront alors une opinion beaucoup plus favorable du long-métrage. Lors de sa diffusion à la télévision en 1987, Tightrope se verra amputé de plus de 16 minutes de film. Du côté du réalisateur Richard Tuggle, qui fut élevé en Floride, l'homme réalisera le film Out of Bounds en 1986, puis écrira un épisode de la télésérie Tales from the Crypt en 1990, qui était intitulé The Switch, avant de disparaître complètement d'Hollywood. En avril 2018, le Bay Area Rapist fut finalement arrêté grâce à la technologie de l'analyse de l'ADN et, ironiquement, le meurtrier était, tout comme dans le film à l'époque, un ex-policier. Ce cas, connu maintenant sous le nom du Golden State Killer, inclura plus d'une douzaine de femmes assassinées et plus d'une cinquantaine qui furent violées par le fou meurtrier. Du côté des points forts, eh bien, Tightrope est un excellent polar, ou si vous préférez un terme film noir, sur un décor très jazzy de la Nouvelle-Orléans, avec un mélange qui est extrêmement intéressant entre l'humour et le suspense. Clint Eastwood ici interprète un personnage beaucoup plus complexe et ambigu que ceux qu'il joue habituellement, n'hésitant pas à prendre une chance ici de briser son image de héros parfaite qu'on a connue dans les années 60 et 70. La direction photo ici est assez habituelle d'un film d'Eastwood, bien qu'on développe ici un climat sombre et tendu à travers des jeux d'ombre et de lumière et où l'on porte un peu plus l'attention sur les couleurs, comme les giallo italiens, notamment le rouge. Le récit développe à travers des incidents assez sordides, des thèmes psychologiques valables et l'humour de la vie familiale du personnage principal est assez pour bien faire passer la lourdeur de ces sujets très sombres du long métrage. Au niveau de la distribution, il est à noter ici non seulement la prestation de Clint Eastwood, mais tout spécialement celle de Geneviève Bugeaud, qui se retrouve dans une situation où elle doit apprivoiser cet animal qu'est notre personnage principal. Et il faut aussi souligner l'interprétation que je trouve vraiment excellente de Alison Eastwood, qui nous montre ici une confiance hors du commun pour un enfant de cet âge sur le grand écran. Finalement, le film est tout simplement intéressant quand ce dernier nous montre cette espèce de jeu de chat et de souris entre le bon et le vilain, un jeu dangereux où notre héros se met à explorer un côté sombre et animal qu'il n'a jamais laissé sortir auparavant et qui risque de le pervertir pour que ce dernier sombre, tout comme le criminel, dans cette perversité dans laquelle il pourrait ne pas revenir. Du côté des faiblesses, bien, c'est un film policier où on a une véritable intrigue psychologique qui se passe sans vraiment beaucoup d'action. Donc, on assiste ici à un film qui est en réalité une manière de rendre hommage à des films des années 30-40, mais au goût du jour, dans lequel la psychologie est beaucoup plus importante que le visuel et l'action. Donc, ça fait en sorte que la première partie du long-métrage comprend quelques petites longueurs et ça insiste beaucoup trop, je pense, sur le sexe et la dépravation. Mais quand on arrive dans la deuxième partie, on se rend compte que ces passages-là sont extrêmement importants pour la continuité de l'histoire. D'ailleurs, cette première partie est quelque peu éparpillée et part dans toutes les directions, ce qui n'aide pas vraiment le film à justement instaurer un rythme intéressant. Au niveau du côté familial, au niveau du côté policier, au niveau du côté perversité, au niveau à plein de niveaux, et à un moment donné, bien, ça fait beaucoup de choses qui fait que ça empêche le spectateur de peut-être vraiment rentrer dans le film sans donner à ce dernier peut-être le goût à quelques reprises de regarder sa montre. Bien sûr, comme bon film policier, ce film a une intrigue, mais cherchez pas à découvrir l'identité du meurtrier parce que c'est pas le but ici. C'est beaucoup plus la transformation de l'identité du personnage principal et la recherche de ce dernier pour obtenir une normalité entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. D'ailleurs, on ne fait que suivre une histoire dont quelquefois la réponse nous arrive vraiment facilement. Au niveau de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Lenny Niehaus, lui qui a travaillé sur des films tels Pale Rider, Space Cowboys, Unforgiven et Mystic Rivers, qui nous donne ici une musique très jazzée. C'est une trame sonore qui n'existe pas. Vous pouvez trouver cependant le thème du film sur l'album Music for the Movies of Clint Eastwood, qui a été sorti en 2010, plus précisément le 23 novembre 2010, sous l'étiquette WEA Reprise. Mais j'ai quand même réussi à vous trouver la musique thème du film Tightrope, que je vous fais écouter à l'instant.
intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Music to the ears of the hungry. The sizzle of a mouth-watering hamburger. Fresh, lean beef, done to a golden brown, couched in a soft bun, and garnished to taste. Man, that's hunger heaven. And you'll feel like you're heaven sent when you get one at our refreshment stand.
This is a dill pickle, a mighty pretty pickle, especially when he joins you at the show. We have lots of pretty pickles waiting for you at the refreshment center. They're plump, tender, mouth-watering. Wouldn't one taste good right now?
When you're on a picnic, hot dogs are mighty good this way. But when you're here at the theater, hot dogs are at their best. We start with the choicest Franks. Cook them until they're just right. Make available your favorite seasonings and leave the rest to you. Everyone likes our hot dogs. Why not get one for everyone right now?
The show starts in 1 minute. And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
This is about a movie about a couple of killers. Harry Callahan. And a homicidal maniac. The one with the badge is Harry.
Halt!
And he kept inventing new ones.
That was a pretty good pinch you made yesterday. The chief was pleased.
He was, huh?
Yeah, he really was. He wanted me to tell you, well done.
I'll tell you how deeply moved I am.
How do you like that? I pass along a compliment? You could at least be a little bit polite. It might not even kill you to say thanks.
I'd much rather say thanks to a raise.
Hey, Harry, check communications. Something from Chicago. A gun nut.
I'm putting somebody with you.
Well, you know what happens to the guys that I've worked with. Dietrich's still in the hospital with a bullet in his gut, and Fanducci's dead.
Now, you're working with Gonzalez, or you're not working. Now, that's straight from the fifth floor. You got it?
I know what you're thinking. Did he fire six shots, or only five? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Mr. Mayor, Inspector Callahan.
All right, let's have it.
Have what?
Your report. What have you been doing?
Oh, well, for the past 3/4 of an hour, I've been sitting on my ass in your outer office, waiting on you.
Damn it all, Harry, that's the mayor you're talking to.
Clint Eastwood. Detective Harry Callahan. You don't assign him.
Stop!
To murder cases. You just turn him loose.
Now, what the hell is he doing up there?
Nurse, please, let me ask you one more question.
Sir, did you see the man that did this to you?
Yes, I did.
Can you identify him?
Yes, his name is Callahan. He's a big cop. Worst homicide, Callahan.
In the city of San Francisco, I will enjoy killing one person every day until you pay me $100,000, Scorpio.
Scorpio strikes again. There's a madman loose.
You know, you're crazy if you think you've heard the last of this guy. He's gonna kill again.
How do you know?
'Cause he likes it. People are gonna stop messing around with this guy. It's gotta be stopped now.
And he will not be molested. And that's a direct order, Callahan!
Dirty Harry, ou l'inspecteur Harry, est un drame policier qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 23 décembre 1971. Ce film américain d'une durée de 102 minutes a coûté 4 millions de dollars, mais a ramassé plus de 36 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve Don Siegel, lui qui avait réalisé des films tels Escape from Alcatraz, Telephone et The Shootist. M. Siegel occupera également le poste de producteur, lui qui a produit des films tels The Killers, Charlie Varick et The Black Windmill. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Dean Reisner, lui qui a travaillé sur les scénarios de Fatal Beauty et The Enforcer. Harry Julian Fink, ce scénariste américain qui a également travaillé sur Major Dundee et Ice Station Zebra. Et finalement, Rita M. Fink, la femme de M. Harry Julian Fink, cette scénariste américaine qui a travaillé sur des films tels Bill Jake et Cahill U.S. Marshall. Dans la distribution, on y retrouve Clint Eastwood, Andy Robinson, Harry Guardino, Renny Santoni, John Vernon, John Larch, John Mitchum, William Patterson et Debra Lee Scott. La ville de San Francisco est aux prises avec un maniaque criminel qui menace de tuer une personne par jour jusqu'à ce qu'on lui ait versé une forte somme d'argent. L'inspecteur Harry Callahan, chargé de l'affaire, arrive à dépister le meurtrier alors qu'il a déjà commis 2 assassinats. Les méthodes employées par le policier n'étant pas tout à fait en règle avec la loi, le prisonnier est alors remis en liberté et ne tardera pas à recommencer ses exploits. Vers la fin des années 1960, le couple scénariste Harry Julian Fink et Rita M. Fink écriront un scénario intitulé « Dead Right » qui mettra en vedette un policier de New York en fin de carrière et aux méthodes dures qui est déterminé à arrêter un meurtrier en série même s'il doit briser la loi pour le faire. L'histoire s'inspirera directement du fameux tueur du Zodiac qui sévit à San Francisco dès la fin des années 1960. Le tueur du Zodiac est un tueur en série non identifié à qui sont attribués de façon certaine 5 meurtres, 2 tentatives de meurtre et un enlèvement commis dans le nord de la Californie à la fin des années 60 et au début des années 70. Au-delà de ces faits vérifiés, il est soupçonné d'avoir commis de nombreux meurtres entre 1966 et 1978. À ce jour, la police n'a toujours pas résolu les affaires criminelles liées ou présumées liées au tueur surnommé le Zodiac, qui n'a plus donné signe de vie depuis 1978, mais qui est considéré comme l'un des tueurs les plus énigmatiques des États-Unis. Il sera d'ailleurs l'objet du film de David Fincher, réalisé en 2007, intitulé Zodiac. Dans la première version du scénario de Dirty Harry, l'histoire se terminait alors que le meurtrier du nom de Scorpion était abattu par un tireur d'élite de la police et non par Callahan et que l'action se situait à Seattle, dans l'État de Washington. Quatre autres ébauches supplémentaires seront ensuite écrites. Le scénario final à cette époque sera alors acheté par le producteur Jennings Lang, qui proposera alors le rôle à l'acteur George C. Scott, qui le refusera à cause de l'aspect très violent de l'écriture. Après le refus de Scott, John Wayne est alors approché pour le rôle, mais celui-ci rejettera également en raison de l'aspect violent de l'histoire. Le scénario sera alors vendu pour la télévision, plus précisément au poste ABC, qui, elle, le revendra plus tard au studio Warner Brothers, jugeant être incapable de diffuser le film sous sa forme littéraire actuelle. Le scénario sera alors remis à la compagnie Bristol Production appartenant à l'acteur Frank Sinatra, qui se montrait alors très intéressé par le rôle. John Milius, qui avait travaillé sur Conan the Barbarian en 82, et Terrence Malick, qui lui avait travaillé en 98 sur The Thin Red Line, retravailleront le script dont leur version finale servira de base au deuxième film de la franchise, soit Magnum Force. Malheureusement, le célèbre comédien de 55 ans, Frank Sinatra, dut subir une intervention chirurgicale et renoncera au projet qui s'intitulait alors Dead Right et qui devait être réalisé par le metteur en scène Irvin Kershner, qui nous donnera plus tard des classiques tels que Eyes of Laura Mars en 1978 et Star Wars The Empire Strikes Back en 1980. Le scénario, revenant de nouveau entre les mains de la Warner Brothers, sera alors proposé et rejeté par les acteurs Burt Lancaster, Robert Mitchum, Steve McQueen et Paul Newman, ce dernier refusant le projet, mais suggérant alors de proposer ledit projet à Clint Eastwood, alors en pré-production de son tout premier film à titre de réalisateur, soit Play Misty for Me. Eastwood acceptera à condition de revenir à la première version du scénario et que le long-métrage soit dirigé par le vétéran réalisateur Don Siegel, avec qui il avait déjà travaillé sur Coogan's Bluff en 1968 et Two Mules for Sister Sarah en 1970. Le 17 décembre 1970, Warner Brothers annoncera officiellement que Clint Eastwood produira le film à travers sa compagnie de production Malpasso et qu'il jouera le rôle principal. Eastwood et Siegel embaucheront alors le scénariste Dean Reisner et les trois hommes plancheront environ 6 semaines sur l'écriture d'un nouveau scénario. Ils commenceront par déplacer l'action de New York à Seattle, puis décideront finalement de situer cette dernière à San Francisco, idée qui leur était venue en visionnant un match de football dans l'enceinte du Caesar Stadium, décor idéal pour une séquence spectaculaire. Puis, ils rajeuniront le personnage et modifieront le cadre de l'affrontement final prévu à l'origine dans un aéroport où Scorpion devait détourner un avion, remplaçant cette dernière par la séquence du bus scolaire, celle-ci étant beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus efficace. Petit à petit, le scénario s'organise, non sans difficulté, autour des différentes versions de Harry Julian Fink et Rita M. Fink. Quelques répliques savoureuses de la version du scénario de John Milius seront utilisées, tout comme l'aspect du Magnum 44, l'arme hors du commun utilisée par l'inspecteur Harry Callahan. Arrivera alors le choix pour la distribution. Pour le rôle de Scorpion, on approchera tout d'abord James Caan, mais ce dernier ne pensait pas être un adversaire de taille à l'écran pour Eastwood. C'est alors que le metteur en scène Don Siegel approchera l'acteur américain Audie Murphy pour incarner Scorpion. Murphy avait une carrière de plus de 20 ans derrière lui et le metteur en scène était persuadé que l'acteur était le meilleur choix pour interpréter le personnage clé qui serait opposé à l'inspecteur Callahan. Malheureusement, Murphy mourut dans un accident d'avion en Virginie en 1971, peu avant son 46e anniversaire et avant que ne soient complétées les négociations pour sa participation au long-métrage. De son côté, Eastwood avait remarqué le jeune acteur Andrew G. Robinson dans une pièce de théâtre intitulée « Subject to Fitz » et le trouvait parfait pour le rôle, ce à quoi acquiesça Siegel. Robinson sera reconnu plus tard pour ses rôles, notamment dans le premier Hellraiser, ainsi que dans la série Star Trek Deep Space Nine. Mais Robinson était encore inconnu du grand écran à cette époque et, de plus, l'homme était un pacifiste et détestait les armes à feu. C'est durant le tournage que Siegel se rendra compte de l'inconfort qu'avait Robinson envers les revolvers et dut arrêter la production afin d'envoyer le jeune acteur dans des cours de manipulation d'armes à feu. Cependant, un détail ne sera jamais réglé, soit celui où Robinson fermera continuellement les yeux à chaque fois qu'il tirera un coup de feu devant la caméra. De plus, l'acteur avait de la difficulté avec les gestes racistes et violents de son personnage. Pour la séquence finale, le réalisateur décida d'utiliser le beau-fils de l'acteur pour interpréter l'enfant pris en otage près d'un étang par Scorpion, ce qui rendit la scène encore plus difficile à réaliser pour Robinson. Mais l'acteur fut tout de même une découverte incroyable, sa prestation étant tout à fait sublime dans ce film. D'ailleurs, Robinson improvisera plusieurs one-liners qui demeurent encore mémorables aujourd'hui. Suite à la sortie en salle du long-métrage, Robinson allait recevoir de multiples menaces de mort, forçant ce dernier à obtenir un numéro de téléphone confidentiel. Pour le tournage, Eastwood recrute des habitués de ses productions précédentes, tels que Robert Daly, au poste de producteur exécutif. La composition musicale est confiée de nouveau à Lalo Schifrin et la photographie au jeune chef opérateur Bruce Surtees. Eastwood et ce dernier collaborant régulièrement, et ce jusqu'à Pale Rider en 1988. Le tournage débutera à San Francisco en avril 1971. En dépit de difficultés logistiques liées aux extérieurs, le tournage se déroule sans problème majeur et l'équipe est constamment en avance sur le plan de travail. Même si le budget est plus important que lors de ses précédentes productions, Siegel et Eastwood ne changent en rien leur méthode, celle des artisans de la série B, soit efficacité maximale, pas plus d'une ou deux prises par séquence, quoi qu'il arrive, et bien sûr, tourner tous les jours. À un certain moment, durant le tournage, le réalisateur Don Siegel sera victime de la grippe. Clint Eastwood le remplacera alors brièvement à la réalisation, notamment la scène dans laquelle Callahan empêche un homme de se suicider. Il proposa d'en faire une séquence nocturne afin d'éviter les problèmes de circulation et annoncera au studio qu'il la tournerait en deux nuits au lieu des six jours prévus à l'origine. Reprenant ses méthodes de tournage légères déjà utilisées sur Play Misty for Me, Eastwood bouclera la séquence en une seule nuit. De plus, l'acteur principal réalisera lui-même la majorité de ses cascades, notamment celle où Callahan saute d'un pont sur le toit d'un autobus scolaire. Cela rehaussera le réalisme du film, qui sera l'une des raisons majeures de la popularité du long-métrage lors de sa sortie en salle. Dans la scène finale de Dirty Harry, Callahan jette sa badge de policier à l'eau, une scène qui fut réalisée pour rendre hommage au sublime western de 1952, High Noon. Initialement, Eastwood était contre cette idée de jeter sa badge à l'eau, car cela voulait dire que le policier prenait sa retraite de la police. Mais Siegel cherchera à convaincre ce dernier en précisant qu'en réalité, cette séquence représente le constat de l'échec d'un système qui est incapable de protéger les victimes et qui semble plus travailler à préserver les droits des criminels. Suite à une discussion avec Siegel, il fut décidé que Harry sortirait son étoile et la contemplerait avant de la ranger. Ce n'est que le jour du tournage qu'Eastwood se rendit compte que la séquence d'origine était sans doute la meilleure et jettera alors son étoile à l'eau. Si Eastwood avait par la suite changé d'idée, cela aurait pu entraîner des problèmes de logistique puisqu'une seule étoile avait été prévue pour le tournage. Dirty Harry obtiendra sa première au Lowe's Market Street Cinema à San Francisco le 22 décembre 1971 et fut un énorme succès commercial. Cependant, l'accueil critique fut beaucoup plus partagé, certains se montrant aussi dédaigneux alors que d'autres le classeront parmi les 10 meilleurs films de l'année. De plus, il est important de préciser que Dirty Harry, sorti en salle seulement deux semaines après A Clockwork Orange de Stanley Kubrick, lui-même une analyse de la violence de la société actuelle des années 60 et 70. Dirty Harry terminera au sixième rang du classement général du box-office américain de 1971, après Fiddler on the Roof, Billy Jack, The French Connection, Summer of 42 et Diamonds Are Forever. Durant la 44e remise des Oscars, des groupes de féministes allaient même protester contre le long-métrage. Dirty Harry obtiendra une nomination comme film de l'année au prix Edgar Allan Poe de 1972. Sur une note plus négative, cependant, Dirty Harry se verra malgré lui inspirer plusieurs crimes similaires à ceux montrés dans le film, dont l'enlèvement d'un autobus scolaire rempli d'enfants en octobre 1972, un dossier connu sous le nom de Faraday School Kidnapping, où deux hommes armés, dont le nom de famille de l'un d'eux était Eastwood, enlevèrent un professeur et six étudiants et demanderont au gouvernement australien une forte rançon de plus d'un million de dollars. Au final, les enfants et le professeur réussiront à s'échapper et les deux hommes seront arrêtés. Une autre situation se produira en septembre 1981 en Allemagne où un couple enterrera vivante une jeune fille de 10 ans, Ursula Herrmann, dans une boîte équipée d'un système de ventilation, de lumière ainsi que de toilettes et demanderont une rançon. Malheureusement, la jeune fille allait décéder dans sa prison 48 heures après son enlèvement et le couple sera arrêté 27 ans plus tard en rapport avec ce crime. Ce cas sera couvert par un film réalisé pour la télévision allemande. Au début des années 80, l'écrivain Dane Hartman a écrit un total de 12 romans complétant les aventures de l'inspecteur Harry. Bien que ne disposant pas d'une chronologie officielle, il est généralement admis que les intrigues de ces romans se situent entre The Enforcer et Sudden Impact. D'ailleurs, suite au succès de Dirty Harry, quatre suites verront alors le jour sur le grand écran, soit Magnum Force en 73, The Enforcer en 76, Sudden Impact en 83 et finalement The Deadpool en 1988. Dirty Harry deviendra une source d'inspiration dans le domaine du film policier et d'action. Celui-ci inspirera également plusieurs acteurs à suivre les pas de Clint Eastwood, soit John Wayne, qui jouera dans des films tels que McHugh en 1974 et Brannigan en 1975, et qui regrettera par la suite de ne pas avoir pris le rôle de Harry lorsque ce dernier lui fut offert, ou encore des acteurs tels que Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Robert Urich, Mel Gibson et même Bruce Willis. Même la télévision se verra directement inspirée par Dirty Harry, notamment les séries Streets of San Francisco en 1972 avec Michael Douglas et Carl Malden, Thomas en 1973 mettant en vedette Tony Musante et Suzanne Strasberg, ainsi que Beretta en 1975 avec Robert Blake et Ron Thompson. Ironiquement, chacune de ces séries furent produites par la chaîne ABC, le même poste qui avait rejeté le projet Dirty Harry à la fin des années 60. Quant au revolver 44 Magnum, ce modèle verra ses ventes monter drastiquement aux États-Unis suite à la sortie du long-métrage. Aujourd'hui, Dirty Harry est reconnu comme l'un des plus grands films du cinéma. En 2008, le magazine Empire listera le film comme l'un des 500 plus grands longs-métrages du cinéma, alors que le New York Times le placera dans sa liste des 1000 meilleurs films à avoir été réalisés. En janvier 2010, la revue Total Film le placera dans sa liste des 100 meilleurs films, alors que le TV Guide et le Vanity Fair le placeront dans leur top 50. Il est précisé que depuis 1972, aucun personnage de film d'action ou de drame policier n'a pas, à un moment ou à un autre, été inspiré par Clint Eastwood ou encore par le film Dirty Harry ou même par le personnage de Harry Callahan. Du côté des points forts, eh bien que Eastwood cherche ici à se défaire de son image de cow-boy des années 60, il est amusant de remarquer que Dirty Harry est un véritable western moderne où le héros est seul face à la criminalité et à l'imbécilité d'un système de justice qui semble être incapable de protéger les innocents. Du côté des comédiens, Eastwood se fait carrément, mais carrément voler la vedette par le jeune Andrew Robinson, qui est ici tout simplement exceptionnel dans le rôle du vilain. Au niveau de la direction photo et du visuel de Dirty Harry, tout est sublime ici, le réalisateur faisant une excellente utilisation de la ville de San Francisco. De plus, la mise en scène adroite du réalisateur et son sens précis du découpage, aidé d'un montage simple mais efficace, sait nous montrer avec justesse le travail policier dont il dramatise habilement les tensions et les problèmes. Le film est d'autant plus dérangeant que, par ses séquences de violence d'un réalisme parfait, rajoutant une certaine touche de malaise pour le spectateur. De plus, le film bénéficie également d'une intrigue policière hors de l'ordinaire, quelque chose que l'on ne verra pas souvent dans ce style de long-métrage. Mais du côté des points faibles, eh bien, bien qu'on ait une intrigue qui est bien ficelée ici, cela va nous apporter quelques petites longueurs. Il ne s'agit pas véritablement d'un film d'action à la Lethal Weapon, mais bien d'un film policier qui se laisse suivre par son histoire et non par ses scènes d'action. Le héros ici est véritablement caricatural et apparaît vraiment plus grand que nature et plus symbolique que vraiment animé d'une vie propre. De plus, le sujet adulte du film pourrait fortement choquer ou même indisposer certains spectateurs, tant au niveau du visuel que du contenu raciste et violent de l'histoire. Finalement, Eastwood interprète un personnage qui est impliqué régulièrement dans des scènes athlétiques, mais lui-même, en tant qu'être humain, démontre beaucoup de maladresse dans ses scènes d'action parce qu'il n'y a pas une facilité corporelle à bouger comme un Mel Gibson ou un Bruce Willis. On est vraiment loin d'un John McClane ou d'un Martin Riggs ici, mais beaucoup plus proche d'un policier sur le bord de la retraite qui a de la difficulté à bouger et qui doit quand même courir après un criminel. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur argentin-américain Lalo Schifrin qui nous avait donné les trames sonores des films Enter the Dragon et The Amityville Horror en 1979, qui va réaliser la trame sonore instrumentale. Trame sonore que l'on pourra retrouver en CD sous l'étiquette Alec Record, une trame sonore qui a été mise disponible le 8 juin 2004. Mais vous pouvez retrouver le thème de Dirty Harry sur différents CD qui sont sorti entre 2009 et 2017, soit sur les albums Cold Cuts, qui a été sorti sous l'étiquette Silver Scream Records en 2009, Music for the Movies of Clint Eastwood, qui a été sorti par, sous l'étiquette WEA Reprise le 23 novembre 2010, Themes for Action and Adventures Movie, qui va sortir sous l'étiquette X5 Music Group le 15 mai 2012, Film Noir's Finest, Themes from the Dark Side of the Lens, qui a été sorti le 9 octobre 2012 sous l'étiquette BSX Records. Lalo Schifrin's My Life in Music, qui sortira sous l'étiquette Alept Records le 13 novembre 2012. Et finalement, Jean-Michel Bernard Plays Lalo Schifrin, qui va sortir le 6 octobre 2017 sous l'étiquette Varese Saraband. Je vous mets ici la musique thème du film Dirty Harry. côté des cotes artistiques, Mediafilm a coté le film Tightrope 4. J'y vais avec une même cote. Du côté de la régie du cinéma, on considère que le film est un 13 ans indicatif. Anciennement, il était 18 ans. Moi aussi, j'y vais avec une cote 14 ans, malgré que je vous dirais que c'est un sujet qui est beaucoup plus mature, qui est vraiment fait pour adultes, notamment à cause de la perversité sexuelle qui est abordée dans le film. Du côté de Dirty Harry, eh bien, Mediafilm cote le film 4. Moi, j'y vais avec un 3. Je pense que Dirty Harry a bien vieilli avec le temps. Bonne action, mais surtout un bon film policier qui ne va pas dans la direction qu'on est habitué de voir. Et bien sûr, prestation de Robinson, prestation d'Eastwood. Je trouve que le film est totalement parfait comme il est. Au niveau de la régie du cinéma, le film est coté 13 ans. Moi, j'y vais également avec une cote de 14 ans, malgré qu'il y a un contenu qui est assez mature. Il y a quelques scènes de violence très réalistes et il y a un langage assez vulgaire. Au niveau de la disponibilité des films en DVD et en Blu-ray, eh bien, du côté de Tightrope, vous pouvez avoir le film en français et en anglais en DVD. Cependant, je n'ai pas trouvé de version Blu-ray disc en version française. Je n'ai trouvé que des versions anglaises. Du côté de Dirty Harry, bien écoutez, oui, vous êtes capable de trouver Dirty Harry en français, en anglais, en DVD et en Blu-ray disc. Mais moi, personnellement, je vous suggère fortement le Clint Eastwood Dirty Harry box set. Ça, c'est le coffret DVD et le coffret Blu-ray disc qui comprend tous les films de la saga Dirty Harry, donc Dirty Harry, Magnum Force, Enforcer, Sudden Impact et Deadpool. Version française, version anglaise, tous les films sont dans les deux langues, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à posséder dans votre bibliothèque de DVD. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.